Bienvenue sur le courrier du cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le courrier du cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout sans tabou. C'est parti. Je reçois une lettre en provenance de Nadine qui va comme suit. Chère Tina, je suis une femme de 23 ans et je suis sur le point de me marier avec mon high school sweetheart. Nous nous connaissons très bien et nous avons beaucoup de projets de vie ensemble. Nos parents respectifs sont divorcés et ma crainte est de connaître le même sort qu'eux. Je fais tout pour que notre relation se passe bien et j'espère seulement être capable de maintenir notre couple dans cet état de bonheur et de félicité. Que me conseillez-vous, Nadine? Chère Nadine, tout d'abord, merci de vous intéresser à notre émission, à notre podcast et de participer en nous envoyant ce court et message qui concerne donc votre vie amoureuse. Alors déjà, félicitations si vous avez cet amour qui dure depuis quelques années, depuis votre secondaire, c'est mignon comme tout, c'est adorable, tant mieux, je souhaite que vous soyez toujours heureux, bien évidemment. Alors, c'est sûr que vous avez un bagage, un petit peu une historique qui peut vous troubler, dans ce sens que si vos parents respectifs sont divorcés, évidemment, cette crainte, cette épée de Damoclès, cette sensation de « peut-être que ça peut m'arriver à moi aussi », évidemment, s'installe dans vos cœurs. C'est normal, ma chère Nadine. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ça avant votre mariage et que vous souhaitez mettre les paramètres, mettre les balises, faire en sorte que vous puissiez persister dans cette relation que vous allez construire maintenant sous l'effigie, sous le drapeau du mariage. Vous souhaitez persister dans cette relation et évidemment, comme tout le monde, trouver votre bonheur. C'est bien tout à fait compréhensible. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? Bien sûr qu'il y a des conseils, il y a des modus operandi, il y a des façons de faire, il y a des choses à éviter, des obstacles à trépasser finalement parce que la vie est compliquée. Nous ne savons pas du tout vers quoi elle va nous amener et surtout nous ne savons pas du tout les épreuves que nous allons devoir confronter tout au long de notre existence. Et il est certain qu'être en couple, ça demande énormément d'adaptation, ça demande du courage, ça demande de la flexibilité, ça demande de la tolérance, ça demande de la confiance, du respect. Bon, ça demande énormément de choses. Alors, quels seraient les conseils les plus évidents, si je peux dire, les plus utiles pour vous? Alors, j'ai quelques petites idées ici parce que, bien évidemment, avec mes 38 ans de mariage, vous pouvez bien croire que j'ai quelques petits outils sous mon aile. Mais je crois que les choses les plus importantes, c'est ce qu'on oublie le plus souvent, c'est-à-dire établir avec votre partenaire ce pourquoi vous voulez être ensemble. Quelles sont les raisons que vous voulez être ensemble? Parce que sincèrement, Nadine, l'amour ne suffit pas et ne suffira pas. Pourquoi? Parce que cet amour passionnel que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore sous ce buzz de papillon, de cet état absolument mirifique, romantique, où tout semble parfait, où le bonheur semble éternel et les problèmes jamais n'apparaîtront. Mais c'est un état qui est tellement temporaire, merveilleux, mais tellement temporaire. Donc, il faut pouvoir se préparer à la suite, bien évidemment. Alors, moi, ce que je conseille aux jeunes couples, qu'ils soient jeunes en âge ou jeunes en relation, finalement, les nouveaux couples, devrais-je dire, c'est d'établir ensemble quelques règles ou du moins quelques reconnaissances de l'autre à travers une exploration simple et qui peut être totalement ludique. Alors, premièrement, il faut connaître déjà le passé de l'un et de l'autre. D'où est-ce que l'autre arrive? Quel est son historique dans ce sens, sa génétique au sens propre du mot, c'est-à-dire quelle est sa famille, quel est son environnement, quelle est sa culture, son ethnie, sa religion finalement, quelles sont ses valeurs? Alors là, on commence à parler sérieusement, parce que tout le monde parle de valeurs et de croyances, mais finalement, peu de gens ne savent quelles sont les valeurs qu'ils ont adoptées, achetées avec le temps, quelles sont les valeurs avec lesquelles ils sont construits, quelles sont les valeurs avec lesquelles ils veulent développer un mariage, une relation, une famille, une vie de couple, et quelles sont les valeurs, ou contre-valeurs plutôt, qu'ils veulent absolument éviter. Ce n'est pas facile de déterminer ces valeurs parce que la plupart des gens ne connaissent pas déjà au départ quelles sont les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Alors bien évidemment, une valeur, c'est ce qui nous motive à fonctionner notre vie. C'est quel est le modus operandi de nos actions. Par exemple, si j'ai une valeur de famille, il est évident que je vais porter une attention particulière à mon environnement, à la façon dont je vais les éduquer, les choix que je vais faire dans ma vie au niveau professionnel, au niveau social, pour pouvoir évidemment vivre l'état familial de façon harmonieuse. Donc, je ne ferai pas des choix, dire donc je vais aller travailler à l'étranger, je vais faire une tournée internationale pendant 6 mois, etc., etc. Je vais faire mes choix de vie en fonction de cette valeur de famille. Si par exemple j'ai une valeur principale d'argent, il est évident que si on m'offre un boulot pour aller travailler comme bénévole dans la bande du Sahel en plein centre de l'Afrique, je n'irai pas parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Alors il est entendu que lorsque nous sommes un couple, nous arrivons tout un chacun avec nos propres bagages de valeurs et de croyances et de contre-valeurs, et il est vraiment fondamental de voir avec l'autre si nous partageons ces mêmes valeurs. Parce que admettons que l'autre ait comme valeur la liberté absolue, ce qui est déjà en soi compliqué, qu'est-ce qui va arriver lorsque éventuellement, peut-être qu'une tentation d'aller voir chez la voisine se présente au nom de cette liberté. Est-ce que cette valeur poussera l'individu à avoir des comportements d'infidélité parce qu'il croit en cette valeur absolue? Ou bien est-ce que justement cette liberté de valeur va poser un problème dans la relation? Est-ce que je dois, au nom de ma valeur, sortir du couple ou est-ce que je dois privilégier une autre valeur parce que je suis en couple? Alors voyez-vous, si on ne fait pas le ménage et si on ne définit pas et on n'identifie pas les valeurs avant d'entrer dans la relation de mariage, il peut arriver lors d'un problème, d'un obstacle, d'une situation, d'une circonstance totalement imprévue, que là, les valeurs parlent réellement et qu'on oublie finalement, peut-être les valeurs auxquelles on aurait voulu adhérer à cause que nous sommes en couple ou parce que nous sommes en couple. Autre chose que les valeurs, c'est de voir aussi les contre-valeurs. Par exemple, si une contre-valeur est la misère, il est entendu que la personne va tout faire pour ne pas être dans une situation financière précaire. Alors, si l'autre a le goût de l'aventure, de voyager, d'être un peu comme ça, libre, si je peux dire, d'aller, de venir et de pas vraiment organiser une vie de stabilité, de revenus stables, etc., eh bien, évidemment, la personne qui a cette contre-valeur misère va avoir beaucoup de difficultés à fonctionner dans cette relation. Alors, établir ses valeurs et ses contre-valeurs est essentiel. Alors, il y a des bouquins, évidemment, qui peuvent être utilisés pour ceci. Je pourrais en nommer et en mettre en attaché. Deuxième conseil, c'est de voir quels sont vos besoins et vos désirs. Parce qu'il y a des choses très différentes entre le besoin et le désir. Le besoin, c'est quelque chose de fondamentalement nécessaire à notre survie ou à notre bonheur. Alors qu'un désir, c'est quelque chose, c'est une aspiration, c'est un souhait, c'est une attente, c'est quelque chose que nous voulons provoquer, que nous voulons vivre, mais qui n'est pas essentiel. Essentiel. Un besoin est essentiel, un désir ne l'est pas. Ensuite, au niveau de l'éducation des enfants, déjà, un, si on veut des enfants ou pas, ce n'est pas le temps de savoir si l'autre veut des enfants dans 10 ans, mieux vaut le savoir maintenant. Et quel choix ferons-nous pour l'éducation des enfants? Est-ce que ça sera une éducation privée, publique, religieuse ou non, pensionnaire ou pas, proche de la maison ou pas, etc., garçon-fille ou pas? Parce que là, ça peut aussi poser des problèmes. Une autre chose qu'il faut établir, c'est les finances. Comment seront gérées les finances? Lorsque les enfants arriveront, est-ce que un des deux parents vont rester à la maison? Est-ce qu'un des deux parents va rester à la maison longtemps? Est-ce que nous faisons le choix finalement de travailler tous les deux et d'embaucher une nanny ou d'admettre l'enfant à la garderie et à la crèche? Quels vont être les choix concernant les enfants? Autre chose, est-ce que nous allons être d'accord sur la façon dont nous voulons gérer nos temps libres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des activités extérieures que l'autre veut faire seul et la personne que vous êtes seule aussi? Est-ce qu'il y a des activités de couple que vous voulez faire ensemble? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incontournables? Par exemple, vous voulez faire du ski absolument parce que vous êtes passionné de ski, mais l'autre déteste l'hiver. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut vivre en couple de cette manière? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, il faut l'établir. C'est-à-dire que si toi, tu veux faire du ski tous les week-ends pendant l'hiver, bien, il faut absolument que moi, de mon côté, je sois à l'aise avec ça et que je trouve refuge, si je peux dire, dans une autre activité pour ne pas sentir délaissée, abandonnée ou rejetée. L'idée dans tout ceci, c'est de construire un couple où chacun aura la liberté de vivre finalement son autonomie, son indépendance, tout en sachant qu'il y a des engagements qui ont été pris et qu'il y a des paramètres qui ont été installés autour de la relation de couple afin que l'un et l'autre soient d'une part libres dans sa sécurité, libres dans ses choix, libres dans sa façon d'organiser sa vie, mais bien évidemment tout en prenant considération qu'il n'est pas célibataire, mais qu'il est en couple. Alors, d'autres conseils que je pourrais vous installer, que je pourrais vous faire une fois que tous les paramètres du couple sont divulgués, sont clairs pour tout le monde, c'est de voir avec l'autre si l'engagement est fait sous condition. Alors là, je m'explique, parce que les conditions souvent sont sous-jacentes, sont dissimulées, sont cachées. C'est une espèce d'approbation peut-être que nous mettons derrière la relation. C'est-à-dire que si l'autre ne fait pas ceci ou pas cela, si l'autre ne correspond pas à ceci ou à cela, si l'autre n'évolue pas de façon X, Y, Z, la relation ne peut pas perdurer. Alors ça, ces conditions-là, claires ou sous-jacentes ou dissimulées, doivent être mises en lumière parce qu'elles vont repopper tout à l'heure, une fois que la poussière de l'amour romantique et passionnel soit tombée. Alors, ces conditions-là doivent être éclairées. Autre chose, c'est comment est-ce que vous avez développé ou comment pouvez-vous développer vos compétences en tant que partenaire de vie. Alors, quelles sont les compétences d'un partenaire de vie? Bien évidemment, ça prend de la gentillesse. Alors, les gens rigolent quand je dis ça parce que la gentillesse, ça coule de soi. Ben bien non. Il y a des gens qui ne sont pas gentils. Et ça veut dire quoi, gentil? Ben j'en parle souvent. Et ça fait rire un peu mon auditoire parce que je parle souvent du fait que être gentil, ça signifie d'être avec l'autre, de se comporter avec l'autre comme s'il était un labrador. Eh oui, un beau labrador. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec un labrador? On le caresse, on le nourrit, on lui dit que c'est un beau garçon, une belle fille, on le sort, on le complimente, on s'amuse avec lui, on le lave. Voyez-vous? Donc, c'est un peu cette idée-là. Qu'est-ce que je peux faire de gentil pour l'autre? Quelles sont les considérations que je peux mettre en éclairage, finalement, pour pouvoir convenir avec l'autre d'un modus operandi qui soit favorable et qui soit empli de bienveillance? D'autres qualités essentielles, bien évidemment, c'est la tolérance, parce que un jour ou l'autre, quelqu'un va nous énerver. Le pâte à dents, parce qu'il piaque à la table, parce que la cuillère est mal tassée, parce que le tapis de bain n'est pas ramassé, peu importe, il va y avoir des bricoles qui vont vous énerver. Alors, vivre à deux, ça veut dire être tolérant parce que l'autre n'est pas nous. Il ne fera pas les mêmes choses de la même manière. Alors, on peut tolérer et même on peut apprendre de l'autre. D'autres façons de faire, d'autres façons de voir la vie, d'autres façons d'opérer, ça peut être intéressant. Donc, tolérer et accepter. Il faut accepter que l'autre ne soit pas parfait, que l'autre ait des failles, que l'autre ait des défauts, que l'autre ait des tocs et des tics qui nous énervent et qui ne sont pas nécessairement idéales. Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas parfaits non plus. Donc, c'est deux êtres imparfaits qui se rejoignent dans une relation en espérant la perfectitude. C'est pas possible. Donc, entrez en relation sachant que ça va être imparfait et que vous avez le droit à l'erreur. Et ce qui est extraordinaire dans tout ceci, c'est qu'on peut corriger les erreurs et faire quelquefois des réconciliations, des moments absolument exquis. Autre chose qu'il faut faire attention, c'est évidemment la sexualité. Comment est-ce qu'on va gérer notre sexualité? Quel est l'être sexuel que vous avez devant vous? Quel est l'être sexuel que vous êtes vous-même? De quelle façon est-ce que vous êtes compatible? De quelle façon vous voulez améliorer votre vie sexuelle? De quelle façon vous voulez l'explorer? Est-ce que c'est une relation sexuelle monogame? Voulez-vous explorer à l'extérieur ou pas? Quel genre de fantasme, de fantasme ou de vie fantasmagorique est-ce que vous avez envie d'explorer ensemble? Tout ça doit être discuté à l'avance. Pourquoi j'insiste, tout ça soit mis à l'avance? C'est parce que les surprises seront moins surprenantes et on sera capable de mieux gérer les situations. Alors, la sexualité implique nécessairement beaucoup de qualités, c'est-à-dire de l'écoute, de la générosité, de la bienveillance, de l'acceptation, de la curiosité, j'insiste encore, de la créativité. Donc tout ça, ce sont des qualités qui sont essentielles au couple et à la pérennité de la relation. Il faut avoir du temps libre solo, il faut avoir de l'espace, de la distance dans le couple. Parce que ce qui crée la tension du désir, c'est le manque et la distance. Alors, lorsqu'on est toujours l'un sur l'autre, 24/7, eh bien, la distance n'existe pas, de toute évidence. Et bien évidemment, le désir s'effiole, le désir se transforme en relation d'amitié, qui n'est pas plus mal, c'est quand même très agréable. Mais pour maintenir une certaine tension sexuelle, bien évidemment, il faut avoir un peu d'espace. Autre chose, je dirais qu'il faut pouvoir cultiver la différence, la tension, je reviens avec le mot tension, j'aime beaucoup ce mot-là, entre le féminin et le masculin. Donc chacun peut avoir à tour de rôle des tendances plus féminines, plus masculines dans ses valeurs, dans ses comportements, dans ses attitudes. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on est tous composés des deux pôles, mais il faut pouvoir garder cette tension saine pour mettre en avant le féminin et mettre en avant le masculin, particulièrement dans la sexualité, où est-ce que ce pôle-là devient essentiel pour une relation intéressante. Alors, lorsqu'on réunit tout ceci, évidemment, il faut assaisonner tout cela de jeu, de s'amuser, de sortir, de voyager, de créer des expériences nouvelles afin de tasser, d'éliminer ou du moins de diminuer les possibilités de routine, de monotonie, d'ennui qui poussent souvent les uns et les autres à aller chercher à l'extérieur du couple quelque chose pour pimenter la relation. Alors, soyez créatifs, curieux, sortez, essayez des sports nouveaux, des activités nouvelles, des endroits différents, de la nourriture différente, de vous habiller différemment, de vous coiffer différemment. Vraiment, variez votre vie parce que ceci simplement colore la relation. Et il n'y a rien de plus le fun que d'avoir de la nouveauté dans une relation sans que ça devienne une course à justement à la nouveauté, mais apprendre à pouvoir Essayez. Voilà, on essaye. Et moi, je me rappelle très bien, j'avais entendu une interview d'un vieux couple, je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'ils étaient mariés ensemble. Et lorsque la question leur était posée, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, quel est votre secret finalement? Et la vieille dame, toute vieille avec ses cheveux en bigoudi blanc, pour répondre, eh bien, nous, notre secret, c'est dans la vie, nous essayons tout une fois. Et si on aime, on recommence. Eh bien, je crois que s'il y a un seul conseil à donner ou à retenir, ça serait celui-ci. Ne soyez pas borné, ne soyez pas obtus. Ouvrez votre champ, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Mettez-y énormément de bienveillance et allez vers l'autre, découvrir, essayer. Et vous verrez bien. Si vous aimez ça, vous continuerez. Alors, il n'y a pas vraiment de secret, ma chère Nadine. J'espère seulement que vous allez prendre quelques petites pépites dans ce live, dans ce podcast, pour pouvoir justement construire une relation harmonieuse avec votre chérie. Et n'oubliez jamais dans toute l'histoire, n'oubliez jamais que vous êtes un individu autonome et que votre partenaire est un individu autonome et surtout ne pas vous perdre dans la relation parce que un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est trois entités et il ne faut pas négliger ni l'une ni l'autre. Voilà, ma chère Nadine, j'espère que tout ceci va vous aider et va contribuer un petit peu à votre lancée dans cette nouvelle aventure qu'est le mariage pour vous. En attendant, ben, je vous souhaite tout le meilleur bonheur du monde et merci encore de vous être adressé à nous. Je vous embrasse. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.